Bonsoir et merci d'être à l'écoute d'RFI à 20h ici à Paris, 19h en temps universel.
Victor Missistrano.
À la une de ce journal, la Birmanie, où les secours tentent toujours de retrouver des survivants au lendemain du puissant séisme qui a frappé le pays et tué au moins 1644 personnes. Le soutien international s'organise. L'Union européenne annonce une aide d'urgence à hauteur de 2,5 millions d'euros. Une marée humaine aujourd'hui dans les rues d'Istanbul, principale ville de la Turquie, dont le maire Ekrem İmamoğlu a été incarcéré. Cette arrestation du principal opposant au président Erdogan suscite une vague de protestations dans le pays. Le début d'un long bras de fer, de longue haleine, selon le chercheur Ahmed Insel, nous l'entendrons. Et puis le ministère français du commerce extérieur dénonce des ingérences inacceptables après l'envoi par l'ambassade des États-Unis à Paris d'une lettre adressée à des entreprises françaises. Le courrier leur demande si elles mettent en place des programmes de lutte contre les discriminations. Les efforts se multiplient pour tenter de retrouver des survivants en Birmanie. Après le tremblement de terre le plus dévastateur depuis des décennies dans la région, qui a aussi endeuillé la Thaïlande, les chiffres provisoires font état de 1644 morts, mais ce bilan devrait encore s'alourdir. Fait rare en Birmanie, l'un des pays les plus fermés du monde, en pleine guerre civile, le chef de la junte militaire a lancé un appel à l'aide humanitaire internationale. La Chine a déployé une équipe de 82 secouristes. L'Inde a envoyé un avion militaire chargé d'aide humanitaire. De son côté, l'Union européenne annonce une aide d'urgence à hauteur de 2,5 millions d'euros. Pour Eva Erneshirova, porte-parole de l'UE pour les questions humanitaires, ce soutien ira en priorité aux personnes déplacées et affectées par le conflit dans le pays.
L'Union européenne a réagi immédiatement, seulement quelques heures après les nouvelles tristes. L'aide immédiate était débloquée pour les opérations d'aide initiale et nous espérons que cette nouvelle aide humanitaire contribuera à sauver encore des vies et répondre aux besoins immédiats. Et nous voudrons mettre l'accent sur les communautés déplacées et touchées par les conflits. Bien sûr, l'Union européenne a également activé son service satellitaire qui s'appelle Copernicus, pour faciliter l'analyse d'impact. Notre partenaire sont indépendants, ce sont ONG ou les Nations Unies.
Des propos recueillis par Pierre-Olivier. Par ailleurs, les Nations Unies s'inquiètent d'une grave pénurie de fournitures médicales en Birmanie qui perturbe la réponse à cette catastrophe. Droit, loi, justice. Un slogan prononcé ce samedi à Istanbul où se sont rassemblés plusieurs centaines de milliers de manifestants. Nouvelle journée de protestation à l'appel de l'opposition au président turc Recep Tayyip Erdogan. Un nouveau rassemblement pour dénoncer l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu. Il y a 10 jours, pour corruption, selon le chef du parti républicain, ils étaient environ 2 200 000. Cette manifestation, hors norme, n'est que la première étape d'une longue série, selon Ahmed Insel, éditeur, professeur retraité de l'université de Galatasaray.
La seule manifestation ne peut pas faire évoluer la situation, puisque Tayyip Erdogan a trop avancé et ne peut plus reculer, et ce sera une vraie défaite pour lui. Malheureusement, il a été trop loin dans la suspension des bribes de démocratie qui reste en Turquie, mais évidemment ça va augmenter la popularité de İmamoğlu et par ricochet, c'est pas simplement İmamoğlu, mais c'est son parti, le Parti républicain du peuple, qui arrive à mobiliser et qui arrive à coaguler le mécontentement contre Tayyip Erdogan. Mais en même temps, on voit bien que c'est une course de moyenne haleine, si ce n'est longue haleine, qui s'est engagée, puisque le président du parti, Özgür Özel, a annoncé que désormais, il y aurait un meeting les mercredis dans un arrondissement d'Istanbul et tous les samedis dans une ville du pays. Donc là, nous rentrons dans un bras de fer de longue haleine.
Selon les derniers chiffres officiels, plus de 2000 personnes ont été arrêtées en Turquie, dont 260 incarcérées depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu il y a 10 jours. En Guinée, Moussa Dadis Camara, gracié pour raison de santé par le chef de la junte au pouvoir, Mamadi Doumbouya. L'ancien dirigeant guinéen est bien sorti hier soir de la maison centrale de Conakry. Information confirmée par son avocat. Près de 3 ans après son placement en détention, juste avant l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. Une affaire dans laquelle Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité. Il n'est pas encore apparu publiquement. Cette décision, surprise, a été accueillie dans la joie et le soulagement par ses partisans et avec consternation par l'opposition et une partie de la société civile. Précision dans la prochaine édition d'Afrique Soir dans moins d'une demi-heure sur RFI. 20h passées de 5 minutes à Barcelone en Espagne, des démocrates américains établis à l'étranger ont organisé des manifestations aujourd'hui afin de protester contre les actions du gouvernement Trump. Le milliardaire républicain de retour au pouvoir aux États-Unis depuis le début de l'année. Les contestataires se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays, dont Madrid et donc Barcelone, dans la capitale de la Catalogne. Ils étaient une centaine, pancartes en main. Reportage de notre correspondante Élise Gazan.
Ils ont manifesté ce samedi dans 5 villes d'Espagne. À Barcelone, c'est sur la place de l'Amérique qu'une centaine d'Américains a répondu à l'appel des démocrates de l'étranger. Doris Stronger, responsable du parti.
On peut aussi faire des choses ici. Déjà, on a le droit de vote et Trump essaie d'ailleurs de nous l'enlever en ce moment. Et puis, nous pouvons appeler nos représentants de notre pays pour expliquer notre désaccord.
Pancarte contre Trump et Elon Musk en main, Luis Varela, colombien ayant la nationalité américaine, regrette le manque de mobilisation aux États-Unis.
J'adore cet état d'esprit de communauté qu'il y a ici. Et c'est ce qui manque aux États-Unis, je pense. Ici, les gens se sentent concernés par ce qui arrive à leur communauté.
À ses côtés, sa femme, Lorraine Okevich, américaine, est très inquiète.
Ils arrêtent des immigrés qui ont leur visa en règle. Alors ce ne serait pas si étonnant qu'ils aillent contre les citoyens. Et c'est pour ça que j'ai même peur de retourner là-bas pour visiter mes proches.
Les démocrates de l'étranger assurent qu'ils continueront à se mobiliser contre l'administration Trump. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait signé un décret pour mettre fin au programme d'égalité des chances au sein de l'État fédéral. Un décret anti-diversité que Washington tente d'exporter dans les entreprises étrangères, en témoigne cette lettre de l'ambassade des États-Unis à Paris. Celle-ci demandait à plusieurs entreprises françaises si elles mettaient en place des programmes internes de lutte contre les discriminations. Des ingérences inacceptables, a réagi le ministère français du Commerce extérieur, Claire Fage.
La lettre de l'ambassade américaine avertit les entreprises françaises destinataires. Le décret 1473 concernant, je cite, « la fin de la discrimination illégale signée par le président Trump » s'applique également obligatoirement à tous les fournisseurs et prestataires du gouvernement américain, quelle que soit leur nationalité et le pays dans lequel ils opèrent. Le courrier est accompagné d'un formulaire qui doit être renvoyé dans les 5 jours. L'entreprise française doit y certifier qu'elle ne propose plus de programme « diversité, équité, inclusion » et qu'elle est en conformité avec, je cite, « toutes les lois fédérales anti-discrimination », ce qui est important, poursuit la lettre, pour les décisions de paiement du gouvernement des États-Unis. Dans l'entourage du ministère français de l'économie sondé par l'AFP, on estime que cette pratique reflète les valeurs du nouveau gouvernement américain. Ce ne sont pas les nôtres et le ministre le rappellera à ses homologues au sein du gouvernement américain. Cette mise en demeure américaine n'en jette pas moins un froid parmi les fournisseurs français du gouvernement des États-Unis qui vont des secteurs de l'aviation et de la défense, aux infrastructures et aux services de conseil.
Précision de Claire Fage. Et puis une manifestation cet après-midi à Paris pour alerter face à la crise du logement. À la tête du cortège, l'association Droit au logement et son porte-parole Jean-Baptiste Hérault. Pour lui, ce rassemblement est l'occasion de rappeler qu'il existe des solutions face à cette crise. On l'écoute.
Cette crise du logement est injuste dans un pays qui n'a jamais été aussi riche que le nôtre et d'autre part, qui n'a jamais compté autant de logements vacants et qui a largement les moyens de loger nos 350 000 sans-abri, de lancer un plan Marshall du logement social pour produire 200 à 300 000 logements sociaux plutôt que d'aider les riches à investir et à acheter des logements pour les louer chers. Eux, ils veulent faire de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Nous, on dit, faisons de la mixité sociale dans les quartiers riches. Vous voulez casser les ghettos de pauvres? Eh bien, commençons par casser les ghettos de riches. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Aujourd'hui, une petite minorité veut gagner toujours plus d'argent et les classes populaires sont en train de s'appauvrir, se paupériser et vivre des conditions de vie indignes. Et c'est pour ça que nous manifestons aujourd'hui, à quelques jours de la fin de la trêve hivernale, le 1er avril, pour que cette question reprenne un petit peu de force.
Propos recueillis par Constantin Jallot, tout de suite géopolitique sur RFI.